mieux.
Le gars vient qu'on vient, vient qu'on vient.
Autant que t'es
clavé. Le gars vient qu'on vient, vient qu'on vient.
MSP.
De la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Paul Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue dans le journal de ce jeudi 6 juin. 14 corps de personnes tuées lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire ont été remis par le gouvernement ivoirien hier mercredi à leurs familles lors d'une cérémonie à Abidjan. Prévision météorologique, un atelier national sur les prévisions de mousson s'est tenu les 3 et 4 juin à Abidjan en vue de proposer aux acteurs des moyens d'évaluation pour prévenir les risques liés au changement climatique, surtout dans le bassin de la Volta. En page internationale au Burkina Faso, le nombre d'instructeurs russes va augmenter, a affirmé hier mercredi le ministre des Affaires étrangères russe à Ouagadougou lors d'une visite dans ce pays dont Moscou s'est rapproché. Et dans les 5 dernières minutes de ce journal, vous aurez l'invité de la rédaction, Dr Bangali Ngoran Gédéon, enseignant-chercheur d'histoire contemporaine à l'université Jean-Laurent Nyanguédé de Daloa, en compagnie de Jean-Claude Mabéa. Il se prononcera sur le choix du président Alassane Ouattara désigné comme le candidat naturel du RHDP pour la présidentielle de 2025. Voilà pour l'essentiel. Une cérémonie officielle de remise de corps de victimes de la crise post-électorale de 2010 a eu lieu hier mercredi à Abidjan, en présence des familles endeuillées. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale a annoncé le soutien du chef de l'État à travers un don de 2,5 millions francs CFA à chaque famille et la prise en charge des obsèques. Le point avec Christelle Yesso.
14, c'est le nombre de dépouilles de victimes de la crise post-électorale dont la levée a été faite en présence des familles.
C'est Diara Mamadou. Ah, je m'appelle juste, elle est parmi les 7 femmes victimes d'Abobo. On nous a officiellement remis, mais le 8 de ce mois, ils vont nous restituer le corps. On va faire nos enterrements à notre manière. On va enfin faire nos deuils.
Le chef de l'État, représenté par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a pris l'engagement d'assurer tout ce qui concerne les funérailles des victimes en soutenant les familles endeuillées à hauteur des 1,5 millions francs CFA.
Ces 14 corps que nous remettons ont été conservés après la crise post-électorale de 2010-2011 pour nécessité d'enquête et d'identification. Le président de la République a décidé cette issue. La prise en charge intégrale des frais de conservation à Ivossé, la prise en charge des frais de transport jusqu'au lieu d'inhumation, un accompagnement financier d'un montant de 1,5 million à chaque famille pour le Yako et à l'organisation des obsèques.
Des victimes blessées de la crise espèrent la même attention de l'État.
Madame Bamba, j'ai été blessée pendant la crise. Il a annoncé que ceux qui ont perdu leurs parents, là, 1,5 million. Pour les blessés, ils vont voir après. On dit blessés graves, ils vont voir notre cas après.
Après la cérémonie officielle de levée de corps, les familles pourront récupérer leurs dépouilles à partir du 8 juin prochain, et ce, jusqu'à la fin du mois.
Les acteurs clés du projet renforcer la gouvernance des zones frontalières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits se sont réunis récemment à Boaké. Cette rencontre, qui bénéficie de l'appui du système des Nations Unies, notamment du PNUD et de l'UNICEF, avait pour objectif de dresser le bilan des 2 années d'activité et dégager les perspectives pour les mois à venir. De Boaké, la correspondance de Joseph Assalé.
Selon Koulibaly Aboudraman du secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, cet atelier va permettre
d'apprécier le niveau de réalisation du projet dans sa phase 1, de voir les forces et les faiblesses de mise en œuvre du projet, de définir les nouveaux défis, mais surtout d'élaborer un plan de travail de la phase 2 dans un cadre programmatique cohérent.
Mais en attendant, les participants ont été instruits sur les résultats enregistrés dans le cadre du projet. Esso Diedmel au nom du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
La contribution au renforcement de la résilience des communautés transfrontalières face aux menaces entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des comités de paix, les réseaux de jeunes ambassadeurs de la paix, l'accès des populations de cette zone aux services sociaux de base, un appui aux forces de défense et de sécurité de cette zone.
Yacouba Doumbia, préfet de la région de Bounkani, préfet du département de Bouna.
La promotion du dialogue intercommunautaire et la prévention des conflits, la sécurisation des zones frontalières et la lutte contre la criminalité transfrontalière.
Il faut retenir que le projet de renforcement de la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits est exécuté dans les régions du Bounkani et du Tchologo en Côte d'Ivoire, tandis qu'au Burkina Faso, ce sont les régions des Cascades et du Sud-Ouest qui bénéficient de ce programme. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Le président du parti pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté, Kevin Fieni, souhaite pour la Côte d'Ivoire une république fédérale. Il a exprimé hier mercredi lors d'une conférence de presse au siège de ce parti politique à Abidjan. Kevin Fieni sur le fond de son idée.
L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réelle décentralisation, une réelle démocratie, une réelle prospérité, une réelle souveraineté. En somme, c'est de faire qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir dans la main des prochains gouverneurs, avec un rang de chef d'État, bien sûr, quant à la gouvernance, à la gestion de leur État. Tout ça va contribuer à stimuler la saine concurrence. Voilà un peu l'idée. Pour éviter d'accumuler le pouvoir, pour éviter de concentrer certaines choses. Parce que quand on est plusieurs, c'est encore mieux que de tout avoir seul et gérer seul. Donc l'idée, c'est aussi ça, à travers des propositions d'abord. Pas comme ce qu'on fait, d'abord on a pris la décision et puis on demande à ce qu'on adopte. Non, toute proposition désormais dans une République fédérale doit être d'abord vraiment une vraie proposition avec grand P. Et laisser, je veux dire, les organes démocratiques se prononcer et inviter aussi la population à se prononcer avant toute décision. Rien n'est perdu. La population, qu'elle reste confiante, la Côte d'Ivoire de demain sera encore meilleure.
Kevin Fieni, le président du parti pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Comme annoncé en titre, les prévisions de la saison de mousseau ont à travers le projet de la prévision saisonnière dans les pays côtiers du golfe de Guinée et la prévision saisonnière en Afrique soudano-saharienne était au centre d'un atelier du 3 au 4 juillet CRAO UEMOA au plateau organisé par l'Organisation météorologique mondiale en collaboration avec l'autorité du bassin de la Volta et le partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest. Avec le soutien de l'asso d'Exam, cet atelier avait pour objectif de faciliter la compréhension des acteurs locaux et nationaux sur la prévention de la mousseau. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Le chef du département études, développement et environnement à la SODEXAM, Ekoulou Ferdinand, est revenu sur le but de cet atelier et le rôle de la SODEXAM.
L'objectif de cet atelier est de permettre à nos populations de comprendre les bulletins des prévisions saisonnières que la SODEXAM réalise afin que nos paysans puissent jeter les semences au bon moment, au bon endroit, afin que leur productivité soit augmentée.
Quelles sont les tendances pour la saison des pluies qui s'annonce à grands pas? Manois, Beaumont, Véronique, chef bureau rédaction des risques de catastrophe à la SODEXAM.
Les prévisions de cette année seront normales à tendance déficitaire par rapport à l'année dernière où on a eu des excédents. Quand on dit déficitaire, ça ne veut pas aussi dire qu'il n'y aura pas d'inondation. Parce qu'un jour de pluie peut créer une inondation, mais sans terme de cumul. C'est-à-dire tout au long de la saison, comment elle va se comporter, elle sera moindre que l'année dernière.
Participant à cet atelier, Traoré Meoyo, agent au ministère de la Santé, se dit satisfait.
Cet atelier est très important pour nous au niveau du ministère de la Santé parce que là, c'est un retour d'expérience, également un complément d'information que nous venons d'avoir à travers cet atelier. Et donc, nous remercions les initiateurs et nous prions à ce que ce type d'atelier-là se fasse au moins plus d'une fois dans l'année en vue de pouvoir partager les expériences et acquérir de nouveaux réflexes.
Lors de cet atelier, la prévision saisonnière de mars à juin 2024 a été donnée par la SODEXAM.
L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD a procédé le jeudi 30 mai dernier à son siège à une remise de prix aux lauréats du séminaire sur les avancées de la recherche scientifique face au changement climatique. Par cette distinction, l'ASCAD entend mener des réflexions et proposer des solutions face au dérèglement climatique. On fait le point avec Didier Blé.
Une remise de prix relative aux avancées de la recherche et de l'enseignement de la physique, c'est la meilleure voie pour installer en Côte d'Ivoire une culture scientifique durable. Professeur Antoine Ouassepo, président de l'ASCAD.
Les pays qui sont en avance aujourd'hui doivent beaucoup leur rang aux académies. Ce sont des institutions qui regroupent des savants de toutes disciplines et dont le rôle est de créer, installer ce qu'on appelle la culture scientifique et innovative.
4 prix au total ont été décernés. Au titre de communication, Dr Julien Baïno a occupé la 3e place pour les impacts des émissions du secteur des énergies domestiques. Dr Youssouf Doumbia a raflé le 2e prix pour son étude comparative des peroxydes hybrides. Et le 1er prix est revenu au Dr Traoré Diakaridja du LASMES.
Je suis du LASMES, laboratoire des sciences de la matière et de l'énergie solaire. J'ai présenté une communication sur un générateur à aimant permanent. C'est un générateur électrique que nous avons construit. On a fait le rebobinage, fait des tests préliminaires. Donc, ce sont ces résultats qui ont été présentés. Ce générateur, il peut être utilisé à plusieurs niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'énergie éolienne, mais aussi, il peut être utilisé à partir de l'eau aussi.
Au titre des expositions, c'est le professeur Touré Siaka, membre de l'ASCAD, qui a été primé. Il a exposé au cours du séminaire une cuisinière solaire qui permet une ébullition de l'eau au bout de 10 minutes et la cuisson de n'importe quel aliment. Cette remise de prix fait suite à un séminaire organisé les 2 et 3 mai 2024 sur la recherche scientifique face au changement climatique.
La 17e édition de la semaine de la sécurité routière a été lancée hier mercredi à San Pedro avec pour thème « Sécurité des usagers des 2-3 roues motorisées ou non motorisées dans la circulation routière ». Thématique choisie à dessein pour renforcer la sensibilisation des usagers des 2 et 3 roues qui, malgré les sensibilisations, n'adoptent pas les comportements utiles en vue de réduire les accidents sur nos routes. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra.
Une remise de prix relative aux avancées de la recherche et de...
Après plus d'un an et demi d'activités de sensibilisation et de formation sur la sécurité routière, les usagers des 2 et 3 roues s'affichent comme les mauvais élèves de la classe, selon Akambi Abiboulaye, directeur régional des transports à San Pedro.
Parmi ceux qui respectent les feux tricolores, c'est les engins de 2 à 3 roues. On a l'impression que les feux tricolores, c'est pas fait pour eux. Même le piéton respecte les feux tricolores. Chaque fois, on répète les mêmes thèmes, mais ils ne changent pas. Durant cette semaine-là, nos équipes seront sur le terrain, à côté des forces, et aussi feront le travail en vous donnant des contraventions pour ceux qui sont vraiment têtus. À San Pedro, tous les carrefours sont équipés de caméras. Mais lorsqu'on va commencer la vidéo-verbalisation, ne soyez pas surpris.
Pour le commissaire de police Cissé Adama de la cellule opérationnelle, cette semaine de sensibilisation pour être efficace sera accompagnée de répression.
À l'orée des fêtes de Tabassi, je voudrais interpeller la jeunesse à beaucoup de prudence parce que ce sont à ces occasions-là que nous avons un taux important d'accidents. La sensibilisation, certes, nous avons des résultats, mais il faut également pouvoir réprimer aussi.
Sidi Diaby, moniteur d'auto-école est formel. Une formation dans les auto-écoles est nécessaire pour tous les usagers des 2 et 3 roues.
En général, quand ils ont les moyens, ils savent payer les engins de roue d'abord, avant de savoir que sur la route, il y a des codes à respecter. C'est des jeunes gens qui sont sur les motos. Ils n'ont même pas 18 ans. Donc tout ça là aussi, il faut voir. Avant qu'un enfant se mette là, qu'il aille à l'auto-école. Sans casque, c'est hyper dangereux en cas de choc. La tête, a priori, doit être protégée. Sinon, on peut tout réparer, mais sauf là.
D'autant que la route a un langage et tout usager de la route doit respecter ce langage. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
C'est aussi l'actualité, grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Ce sont 4 600 élèves qui sont tombés enceintes au cours de l'année scolaire qui s'achève. C'est le constat fait par le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, qui appelle les parents d'élèves et le gouvernement à prendre leurs responsabilités pour endiguer ce phénomène ou du moins le faire chuter drastiquement. Le directeur des programmes et études thématiques du CNDH, Yapi Léonce Adon, joint par Francis Cassi.
La situation des grossesses en cours de scolarité s'aggrave depuis 3 ans. Nous faisons un monitoring de la situation. Donc, nous enregistrons les chiffres des grossesses depuis 2022. Et donc, depuis 2022, nous faisons chaque année la revue des chiffres. Aujourd'hui, nous avons 4600 cas de grossesses qui ont été constatés pour cette année 2023-2024. C'est croissant. Les causes sont diverses. C'est que les jeunes filles sont attirées par le luxe. Et donc, tout le monde veut paraître. Elles sont aussi souvent dans des difficultés financières. Ce qui fait qu'elles s'adonnent aux premiers venus et elles entretiennent des relations sexuelles sexuelle avec des personnes. En fait, la pauvreté y est pour quelque chose, parce que une jeune fille qui quitte son village pour la ville et se retrouve sans soutien de ses parents, elle est livrée à elle-même, et souvent quand vous les interrogez, elles vous disent qu'elles ont faim, et donc le premier venu, elle s'y adonne. C'est tous les niveaux qui sont concernés. Il n'y a pas seulement que le secondaire, mais le primaire aussi est concerné.
Alors, et quelle est la région de la Côte d'Ivoire qui est en tête de ces cas de grossesse en milieu scolaire?
La première région, c'est la région de la Narwa, avec 409 grossesses qui ont été recensées. L'année dernière, c'était eux, et cette année, c'est encore la région de la Narwa.
Et est-ce que vous avez un appel particulier à lancer?
Oui, je voudrais lancer cet appel-là à l'endroit des parents surtout, pour qu'ils prennent plus de responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Aussi, au niveau de l'État, il faut peut-être réfléchir à remettre en place les internats. Parce que à l'école primaire, par exemple, le phénomène est moins visible là-bas, parce qu'il y a des cantines scolaires. À midi, elles peuvent s'alimenter, et donc elles sont moins enclines à s'adonner au premier venu.
Yapi Léonce Adon, directeur des programmes et études thématiques du CNDH. En page internationale, au Burkina Faso, le nombre d'instructeurs russes dans ce pays va augmenter, a affirmé hier mercredi le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russes, Sergueï Lavrov, à Ouagadougou, lors d'une visite dans ce pays. En parallèle, nous formerons en Russie des représentants des forces armées et des forces de l'ordre du Burkina Faso. Pour ce dernier, ce type de partenariat est donc très concret et a beaucoup progressé. Sergueï Lavrov a bouclé sa tournée africaine au Tchad, où il a tenu également une conférence de presse avec son homologue tchadien N'Djamena, la capitale. Les deux hommes ont discuté du renforcement de leur coopération militaire, économique et commerciale. Parallèlement, le diplomate russe a critiqué la position des Occidentaux dans la crise ukrainienne. Et puis à New York, mercredi hier, c'est-à-dire, le secrétaire général de l'ONU a critiqué les compagnies pétrolières responsables d'émissions de CO2. Antonio Guterres a proposé aux pays membres de les taxer plus lourdement afin de financer les pertes et dommages subis par les populations à travers le monde. Un discours prononcé à l'occasion de la tournée mondiale de la Journée mondiale de l'environnement a déclaré que les émissions mondiales de dioxyde de carbone devraient diminuer de 9% chaque année jusqu'en 2030 pour que l'objectif de 1,5 degré puisse être maintenu. Antonio Guterres a proposé également d'interdire aux compagnies pétrolières de faire de la publicité dans les médias, et ce pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Il recommande de lever les subventions sur les produits pétroliers qui maintiennent les prix bas pour les consommateurs. L'invité de la rédaction de ce jour est Dr Bangali Ngoran Gédéon, enseignant-chercheur d'histoire contemporaine à l'université Jean Lorognon Guédé de Daloa, présidentielle 2025. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a tenu le lundi 27 mai dernier à Abidjan la quatrième instance de la grande réunion de l'encadrement politique du parti. À cette rencontre, le président Alassane Ouattara a été désigné comme le candidat naturel du RHDP. Maître de conférence des universités, Dr Bangali Ngoran Gédéon se prononce sur ce choix en compagnie de Jean-Claude Mabéa.
Dr Bangali Ngoran, bonjour.
Bonjour.
Le RHDP a tenu sa grande réunion. L'une des décisions qui est ressortie de cette rencontre est que le président Alassane Ouattara a été désigné comme le candidat naturel du parti pour les présidentielles de 2025. Quelle analyse faites-vous, docteur Bangali?
Le premier commentaire qu'on peut faire, lié à la terminologie utilisée, il est désigné comme le candidat naturel. Ça veut dire le candidat qui, dans le contexte actuel, marqué par le retour dans la compétition présidentielle du président Laurent Gbagbo, même si son sort est suspendu à la résolution, potentiellement politiquement, de son exclusion de la liste électorale, mais une chose est sûre, c'est qu'il est d'un nouveau acteur de la scène politique. Et aujourd'hui, à travers Tidiane Thiam, il a un challenger de taille qui se positionne comme un acteur qui a fait ses preuves à l'international et qui a également un carnet d'adresse solide. Donc, sans que dans ce contexte-là, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui au RHDP qui puisse naturellement répondre aux défis, c'est naturellement le président Alassane Ouattara. Et puis, le deuxième commentaire qu'on peut faire, c'est que c'est un peu sans surprise, parce que dans le contentieux juridico-politique en 2020 qu'il a eu autour de s'il pouvait se présenter un nouveau mandat ou non après l'adoption d'une nouvelle constitution, le Conseil constitutionnel s'est rangé du côté de l'interprétation que le RHDP défendait, c'est-à-dire qu'on était face à une nouvelle république, donc le compteur était remis à zéro. Donc, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a validé sa candidature qu'il fait, qu'on peut considérer comme le premier mandat de la Troisième République, ça lui donne droit, je dirais, indirectement ou naturellement, à un deuxième mandat de la Troisième République.
Le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du parti, disait sur une chaîne étrangère que ce choix porté sur le président Alassane Ouattara comme candidat naturel de leur parti est justifié par son bilan jusqu'à présent. Vous partagez cet avis ?
Oui, je pense que c'est une analyse tout à fait rationnelle parce que, bon, le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le président, je dirais, d'une dynamique de reconstruction. Généralement, dans l'histoire de toutes les nations, quand on sort d'une longue crise, on entre dans une phase de reconstruction. Et cette phase de reconstruction, généralement, se manifeste par des grandes réformes, par des grands travaux. Et donc, quand on finit de faire ces investissements-là, forcément, en termes d'image, celui qui a été le président de l'aide à la reconstruction, il en sort forcément avec une image, je dirais, élevée au niveau de la conscience nationale. Donc, c'est clairement pour eux aujourd'hui un atout sur lequel ils veulent capitaliser. Mais bon, bien sûr, dans une gouvernance, tout n'est pas réussi. Et donc, il y a des questions sur lesquelles, malgré les grands travaux qui ont été réalisés, il y a des questions sur lesquelles l'opposition pourra toujours tirer à boulet rouge sur le bilan présidentiel. Parce qu'il y a la question de la chèque de la vie. Il est vrai que beaucoup a été fait, mais il y a encore beaucoup à redire.
Je vais vous prendre au mot, docteur Bangali. Selon vous, quels pourraient être d'autres points en dehors de la cherté de la vie qui peuvent être attaqués par l'opposition, comme vous le dites?
L'opposition reproche, entre autres, au président de la République son refus, en quelque sorte, de travailler de manière assidue, améliorer les conditions de la compétition démocratique. Et je crois que le centre de cette réclamation, en tout cas l'institution qui cristallise donc les critiques à ce niveau, c'est la non-refonte en profondeur de la commission électorale indépendante. Donc c'est l'un des éléments essentiels. Donc la critique est faite aux conditions de la compétition démocratique, que ce soit au niveau électoral, mais également au niveau politique, parce que depuis, c'est vrai, la fin de la crise électorale, beaucoup d'anciens prisonniers politiques ont été relâchés, mais il y a encore des acteurs politiques majeurs de la vie politique en Côte d'Ivoire qui sont en exil, comme Soro Guillaume. Voilà, donc il y a de ce côté-là également un angle mort. Mais au-delà donc de cet angle mort, il y a la situation actuelle de l'école ivoirienne. Il y a eu des états généraux parce qu'on a fait un constat de déliquescence de la qualité et des prestations dans ce ministère-là. Les réflexions ont été engagées et jusque-là, on attend les conclusions et les réformes qui ne suivent pas pour le moment. Donc, il y a un ensemble de faits, évidemment, en plus des cas de détournement de deniers publics qui ont été dénoncés, que ce soit au sein du fonds d'entretien routier, que ce soit également au niveau de la bourse du café cacao. Donc, il y a tous ces dossiers-là qui vont remonter où on sera dans la période de pré-campagne.
Ces dossiers pourront ressurgir, vous voulez dire?
Oui, absolument. Ils vont ressurgir dans l'espace politique, dans les discours, à partir du moment où la compétition pour le fauteuil présidentiel sera engagée.
Un élément important, et c'est la dernière question, c'est sur la question de la réconciliation.
Oui, la question de la réconciliation nationale fait l'objet de deux interprétations. La position officielle du gouvernement, c'est que pour eux, la réconciliation, c'est un processus qui est dynamique, qui évolue. C'est vrai, je dirais, une sorte de processus où on évolue à échelle après échelle. Et donc, eux, ils sont dans leur compréhension, dans une dynamique de continuer de faire des efforts. Et donc, la réconciliation est un peu comme une vérité. Elle ne saura jamais être parfaite, mais ils font les efforts qu'ils peuvent pour faire progresser le dossier au rythme donc d'un certain nombre de contingences.
Docteur Bangali Ngoran, je vous remercie.
Merci.
Invité de la rédaction, Dr Bangali Ngoran, Gédéon, enseignant, chercheur d'histoire contemporaine à l'université Jean Lorignon-Guédé de Dalois, répondait à Jean-Claude Mabéa. Fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. 14 corps de personnes tuées lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire ont été remis par le gouvernement ivoirien hier mercredi à leur famille lors d'une cérémonie à Abidjan. Prévisions météorologiques, un atelier national sur les prévisions de mousson s'est tenu les 3 et 4 juillet à Abidjan en vue de proposer aux acteurs des moyens d'évaluation pour prévenir les risques liés au changement climatique, surtout dans le bassin de la Volta. C'est la fin de ce journal. Je serai dès à votre à 15h pour le flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Francis Cassi.
Bonjour à tous. Le président de la République est annoncé pour s'adresser le 18 juin prochain aux députés et sénateurs réunis ensemble. Mais aucun ordre du jour n'a été officiellement connu.